France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique.
Si XY est bien la formule chromosomique qui conditionne l'être humain masculin, cela ne suffit pas à le caractériser. D'abord, on peut se demander un peu si les gamètes conditionnent quoi que ce soit de l'être humain. Déjà, l'être en tant que tel n'est rien moins qu'identitaire. Reste alors à spéculer sur l'identité. L'homme sexué ferait bien d'alterner, par exemple, dit-on, le dur et le mou, si l'on veut identifier quelque chose du désir, autre chose qu'une formule chromosomique. Comment faire connaissance? La connaissance, c'est-à-dire avec et dans le monde, se résume à un vain coït, et il ne s'agit pas de ça pour Elisabeth Badinter, mais bien plutôt d'exister à son corps sexué pour faire connaissance. À la rencontre de ce qui refend le sujet, disait Lacan, et le grime en ce déchet qui, lui, au corps, existe. C'est-à-dire pour l'homme social, les femmes et les enfants d'abord, lui ensuite, tout entier dans sa chute mélancolique d'être aimant, et machine célibataire.
Mise au point, bonsoir à vous tous. Mon invité ce soir est Elisabeth Badinter pour son livre XY de l'identité masculine, publié aux éditions Odile Jacob. Elisabeth Badinter, vous êtes philosophe, vous aviez déjà publié des livres qui avaient fait beaucoup de bruit. Il y avait L'amour en plus, et puis l'un et l'autre, et puis avec aussi Robert Badinter, un livre sur Condorcet, un intellectuel en politique. Et votre livre XY, donc de l'identité masculine, qui vient de sortir chez Odile Jacob, est déjà un livre événement, puisque tout le monde en a parlé déjà, à la fois dans les journaux, et puis aussi dans les médias audiovisuels. Alors, vous faites le point dans ce livre sur une grande partie, peut-être pas tous, mais enfin en tout cas une grande partie des textes qui concernent ce problème justement de l'identité masculine, aussi bien des textes sociologiques, psychanalytiques, biologiques, et aussi une analyse des romans et de toute la littérature autour de l'homme. Alors, je crois qu'il n'est pas très facile de parler d'un homme pour un homme. Est-ce que ça vous paraît normal que ce soit une femme qui en parle ?
Je ne sais pas si c'est normal ou pas normal. Peut-être aurait-il été souhaitable que ce soit un homme qui commence à s'interroger sur l'identité masculine. En France, il y a très peu de personnes qui s'en sont occupées, mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'hommes qui travaillent dans les men studies et qui s'interrogent. Alors évidemment, on peut me faire la critique, mais vous ne pouvez le voir que de l'extérieur, ce qui est exact. Et j'ai pleinement conscience de mes limites. Le fait d'être une femme, par exemple, est certainement un obstacle pour comprendre beaucoup de choses quant à la sexualité, à la sensualité, etc. Mais j'ai quand même essayé profiter des avantages d'être à l'extérieur, peut-être pour, au fond, tout simplement, avoir un peu de sérénité.
Il est vrai aussi que les hommes ne pensent pas du tout à eux-mêmes quant à leur identité, à se remettre en question, si ce n'est les femmes qui le font. Et vous rappelez à juste titre, dans votre livre, pour prendre une histoire relativement récente, que depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle, il y a eu en gros trois grands tournants autour justement de cette problématique.
C'est-à-dire qu'il est des époques, toujours en Occident évidemment, en général dans les pays les plus favorisés, où les femmes se sont interrogées sur les hommes et ont remis en question l'identité masculine traditionnelle. C'était le cas des précieuses, dont on s'est tant moqué. À la fin du XVIIe, et en France et en Angleterre, les femmes plus féministes, revendicatrices, plaidant pour l'égalité des sexes, disent, ça m'a beaucoup frappé, on voudrait des hommes plus doux, plus tendres et plus féminins. Et c'est elles qui lancent le débat, parce qu'elles ont lassé du dur de dur, du machisme ordinaire du XVIIe siècle, et à ces demandes, et de femmes françaises, d'un petit microcosme, mais quand même, et de femmes anglaises, il est intéressant de noter la différence des réponses. En France, il y a eu des précieux, et dans l'ensemble, même s'il y a des Molières pour s'en moquer, il y a eu une sorte d'effort, de civilité, d'un peu plus de douceur de la part des hommes, tant et si bien qu'au XVIIIe siècle en France, c'est un des siècles les plus féministes, et où on voit très bien que hommes et femmes sont extraordinairement ressemblants et que les valeurs du XVIIIe sont féminines. La culture, la mondanité, bon. Donc en France, on peut dire que pays béni, de mon point de vue, dans la relation homme-femme, En France, ça n'a pas fait un drame. Mais en Angleterre, en revanche, quand les femmes anglaises féministes de l'époque ont commencé à dire « on veut des hommes plus tendres et on a assez de ce modèle de, de masculinité, les hommes ont beaucoup protesté et ça s'est vite arrêté, ce petit mouvement-là.
Alors c'était un petit mouvement qui a été aussi arrêté en France avec la Révolution en 89
ou... Ça n'a pas été un si petit mouvement en France, parce que quand même, c'est un siècle. De la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe, à la Révolution française, il y a eu, en tous les cas, dans les classes les plus favorisées, de la bourgeoisie, même de la bourgeoisie de province, et je ne vous parle pas d'aristocratie, il y a eu une sorte véritable de complémentarité. Les femmes étaient assez viriles, les hommes plus féminins. Enfin, donc ça n'a pas été un petit mouvement. Et c'est vrai qu'au moment où la Révolution...
En tout cas, c'est ce que vous dites dans votre livre, enfin, par rapport en tout cas au mouvement actuel.
Oui, bien sûr, parce qu'il faut rappeler qu'au XVIIIe siècle, 80% de la population appartient à les paysannes. Alors évidemment, ça restreint. Mais à la fin de la, enfin, la fin du XVIIIe, à la Révolution, alors à ce moment-là, pour avoir beaucoup travaillé sur les textes des hommes de la Révolution qui sont intéressés aux femmes, je peux vous dire que la majorité d'entre eux, sauf notre cher Condorcet et deux, trois autres, l'immense majorité des hommes de la Révolution refusent aux femmes leurs droits de citoyennes et le droit de, les droits politiques pour une raison clairement exprimée sans détour, c'est... Surtout gardant les frontières des deux sexes, restez à la maison et ayez des comportements exclusivement féminins, parce que sinon nous ne saurons plus qui nous sommes. Et c'est la peur, je dirais, de l'indéfinition, du vide définitionnel des sexes au XVIIIe qui fait que les hommes de la Révolution ont été extraordinairement réactionnaires.
Oui, alors au XIXe siècle, il y a eu aussi, au tournant du XIXe siècle surtout, et là vous citez le livre d'Annelise Mogg, qui d'ailleurs était venue à cette émission, L'identité masculine en crise, qu'il faut citer, parce que c'est un travail tout à fait intéressant sur les romans de l'époque, qui montrent effectivement que les hommes disent que la femme, lorsqu'elle sort du foyer, ça va être une mauvaise mère.
Une virago, c'est une virago. Pour certains, on n'hésite pas à parler de lesbienne, c'est effectivement une très mauvaise mère, et les enfants vont dépérir, quoi. Mais je tiens à vous faire remarquer que j'étudie cette crise de la masculinité dans trois pays. En France, aux États-Unis et en Autriche.
À
Vienne. Or, on est quand même frappé de voir que même cette crise qui est sévère en France est dure, elle l'est beaucoup moins qu'en Autriche. Oui, oui. Beaucoup moins. On n'a pas en France l'équivalent d'un Weininger ou d'un Schopenhauer.
Parce qu'en Autriche, c'était lié à la décadence de la société.
C'est
lié à
une dissolution générale, comme disait Bettelheim. C'est quand même l'époque où il n'y a plus de sujet. À cause de Freud, il y a un surmoi, un moi et un ça, et il n'y a plus de sujet. Ouais. Donc il y a une dissolution générale et de la société viennoise et du sujet viennois. Et des rapports et des relations hommes-femmes.
Il faut dire quand même, ça c'est, vous rétablissez ou disons, vous faites dire à Nietzsche et à Weininger. Weininger, il faut peut-être rappeler que c'était un juif à la fin du siècle qui s'est suicidé à l'âge de 20 ans. C'était un contemporain de Freud qui avait écrit Sexe et caractère où il montrait.
Si Weininger vous entend de sa tombe, il sera ivre de rage car il n'était pas juif, il était d'origine juive et donc il était protestant, extraordinairement antisémite.
Oui, enfin, il était très antisémite et très anti.
Voilà. Alors, c'est lui qui a lutté toute sa vie contre son judaïsme originel. Vous entendez, ça serait le deuxième suicide.
On s'en débarrasse pas si facilement. En tout cas, vous dites que Nietzsche et Weininger veulent un retour à une saine polarité des rôles sexuels. Seul le rétablissement des frontières sexuelles, je vous cite, libérera les hommes de leur angoisse identitaire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui est vrai aujourd'hui?
Ah non. Écoutez. Non, alors moi je ne joue pas la régression, le retour en arrière et l'opposition des sexes et retour à la guerre des sexes. Ça serait une régression incroyable dont personne ne veut.
Mais frontières sexuelles.
Oui, mais frontières sexuelles, pas du tout. Les jeunes hommes aujourd'hui veulent exprimer leur féminité, même si c'est difficile. Moi je vois les jeunes de 25 ans, ils peuvent pleurer, ils peuvent être passifs, ils peuvent être maternants avec des bébés. Ils accepteraient jamais, vous m'entendez, de revenir à chacun chez soi et Dieu pour tous.
Mais c'est vrai que c'est un point de départ d'une thèse.
C'est une solution pathologique. Voilà. C'est une solution pathologique.
C'est vrai. C'est... Mais enfin, j'étais un petit peu subversive là pour dire tout de même que ces frontières, il faut quand même qu'elles existent à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'il y a du féminin chez les hommes, du masculin chez les femmes, on est bien d'accord. Mais il va bien falloir qu'à un moment, il y ait complémentarité pour qu'ils se rencontrent.
Écoutez, alors je suis en opposition radicale à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que, de mon point de vue, c'est le contraire qui se passe. pour que les hommes et les femmes se rencontrent et puissent profiter de leur immense ressemblance, à mon avis, c'est-à-dire de leur commun androgyna, de leur commune humanité, il est au contraire nécessaire qu'au départ, chacun s'ancre dans sa différence, même si cette différence est plus relative qu'il y a 30 ans, même si c'est moins dans l'opposition, il reste toujours des différences subtiles entre les gens. Et au contraire, il faut que la fille puisse tranquillement, la petite fille, se revendiquer sa féminité, fût-il par des moyens, par les plus caricaturaux à nos yeux, et les garçons de même. Donc la différence, elle est au départ. C'est là qu'on doit acquérir son identité, le sens de sa différence.
Mais on est bien d'accord.
Au nom du ciel, c'est pas pour adultes revenir au modèle de la complémentarité, c'est au contraire pour que adultes on puisse enfin être dans la ressemblance.
Oui, mais alors la ressemblance, est-ce que ça va pas faire un grand mélange? Enfin, je sais plus, on sait plus si les hommes doivent être doux, durs, mous.
Ils doivent être ça, madame, durs et doux alternativement. Je veux dire que c'est pas compliqué. C'est-à-dire que on n'attend pas que les hommes soient des ersatz de femmes traditionnelles. On veut des hommes, des vrais, comme
on dit. Justement, mais alors où est-ce qu'ils sont?
Mais écoutez, simplement, le problème des hommes actuels qui sont des hommes mous, c'est qu'ils n'ont pas de modèle de virilité. Voilà. C'est que les pères ont abdiqué absolument. Voilà, c'est le
Vous
problème
dites
du père.
À juste titre
mais
que le
on
père...
peut changer. Oui. Ça me frappe énormément. On change, quoi qu'on que pensent certains psychanalystes. C'est-à-dire que les jeunes garçons aujourd'hui, ils n'ont pas envie de se comporter avec leurs enfants comme leur père s'est comporté avec eux. Et donc, déjà, ils oui. sont porteurs d'une
Mais
nouvelle
vous,
paternité.
Vous voyez où est la difficulté. Vous citez vous-même Henry James, dont le père avait été élevé par un père très dur, absent. Et oui. il avait lui-même beaucoup entouré ses enfants. Henry James, lui-même, n'a jamais pu avoir une relation sexuelle. Je veux dire, ça n'est pas si facile que
non,
ça.
Non, mais attendez, c'est... Qu'est-ce qui n'est pas facile?
Cette histoire de la relation père-fils, et qui va commencer, si vous voulez? Parce que c'est vrai qu'il y a une défaillance des pères.
Oui, mais ce sont les fils de ces pères qui ne veulent plus être comme leur père. C'est eux qui vont commencer. Je ne vous dis pas qu'ils vont réussir du premier coup, puisque de mon point de vue, il faut des générations pour changer. Mais c'est eux qui commencent. Les hommes, les papa-poules, pour prendre l'expression commune pour désigner les pères-mères, ce sont des hommes... qui ont un refus absolu de leur père dur, physiquement absent, psychiquement absent. Ils ont été des pères-mères. Et puis après, on ne peut pas se comporter comme une mère avec un garçon de 8 ans. Après, ils ont baissé les bras. Tout simplement parce qu'ils ne savaient pas quel modèle de virilité transmettre à leur fils. Mais leur fils, ils ne veulent pas être des hommes mous. Donc c'est les fils qui vont changer.
C'est on ne sait si pas trop comment. Parce qu'en fin de compte, ce que vous dites là aussi, c'est quand même le rôle de la mère ou le rôle de la femme. C'est-à-dire que c'est nous qui les faisons durs ou mous, finalement, si on reprend l'histoire.
Mais non, madame, moi je ne suis pas d'accord. La responsabilité des fils, ce n'est pas aux mères. Franchement, je crois que c'est ça le malentendu. Je reprends cette phrase d'Aristote, ce sont les hommes qui engendrent les hommes. Et Aristote disait, les femmes font des êtres humains et les pères font des mâles de ces êtres humains.
Je suis bien d'accord, mais ce que je voulais dire, Elisabeth Badinter, c'est que nous les avons sortis de leur piédestal. Vous êtes bien d'accord? C'est quand même les femmes qui les ont interpellés là
oui,
où ils étaient.
Oui, tout à fait.
Donc maintenant, c'est peut-être à nous. Je ne parle pas de mère, au moins en tant que femme, de leur redonner une place.
Mais vous croyez qu'on leur a enlevé?
Je crois,
oui. Oh, c'est une plaisanterie. Regardez la société telle qu'elle est aujourd'hui, interrogez les femmes. Elles essayent de se faire une part dans l'égalité. Mais elles n'ont pas encore réussi. Elles protesteraient si elles vous entendaient. En revanche, je remarque simplement que le seul fait de demander l'égalité est un obstacle pour les hommes et ressenti comme une atteinte à leur identité. C'est ça que vous voulez dire. C'est ça qu'ils ressentent. Ouais. L'égalité, c'est une atteinte à mon identité. Ouais. Dieu merci, on est en train de passer l'étape suivante.
En tout cas, il faudra bien qu'on se rencontre d'une meilleure façon dans l'avenir.
Et vous savez, je crois qu'on les rencontre un peu mieux aujourd'hui qu'hier et qu'on les rencontrera encore mieux après-demain.
Je vous remercie, Elisabeth Badinter. Donc, XY de l'identité masculine, un livre publié chez Odile Jacob.
C'était Mise au point par Eliane Contini qui recevait Elisabeth Badinter à propos de XY de l'identité masculine, édité aux éditions Odile Jacob en 1992.